Nous sommes jeudi 15 décembre 2022. Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Tout de suite, les titres du journal. Environ 500 millions de dollars annoncés hier au sommet États-Unis-Afrique pour la réalisation du compact MCC régional Niger-Bénin, à suivre notre envoyé spécial à Washington. Une vingtaine de journalistes sont à Dosso pour une formation sur le fact-checking en lien avec la protection des droits de l'enfant. Le magazine de ce journal nous amène à la découverte du groupement Yotori Al de Nordiré, dont les membres pratiquent des cultures maraîchères sur un site octroyé par le projet italien 3E. Bonsoir à tous et bienvenue. Le compact régional Niger-Bénin a été signé et officialisé hier mercredi 15 décembre à Washington en présence des présidents nigériens et béninois. C'est une enveloppe de plus de 500 millions de dollars qui a été allouée pour la réalisation des infrastructures routières, mais aussi des infrastructures touchant à d'autres domaines. John Chomonise, l'un des porte-parole du département d'État, explique ce point compact au micro de notre envoyé spécial à Washington, Tarnan Foudé Ahmed.
Ça vient de se faire annoncer. Votre pays, le Niger, aussi Bénin, il y a des compacts maintenant avec le Millennium Challenge Corporation. Il y a des projets qui se sont annoncés pour les transports, par exemple. On a essayé aussi de mobiliser le secteur privé pour réaliser des accords commerciaux pour promouvoir le libre-échange et le commerce entre les deux côtés. Le climat, la sécurité. Il y a plusieurs questions inquiétantes. Nous sommes conscients de ça et nous discutons avec nos partenaires dans vos pays. Il y a aussi le fait qu'on cherche à institutionnaliser un peu l'engagement avec l'Afrique, promouvoir par exemple l'inclusion de l'Afrique dans le groupement de G20 et aussi au sein du Conseil de sécurité à l'ONU.
Nous restons toujours à Washington où une partie de la diaspora africaine a manifesté hier devant la Maison-Blanche pour protester contre l'invitation de certains chefs d'État africains au sommet Afrique-États-Unis qui s'est ouvert mardi 13 décembre. Suivons le reportage de notre envoyé spécial à Washington, Tarnan Foudé Ahmed.
La diaspora africaine de Washington, les panafricains, acteurs de la société civile, ont dénoncé l'invitation de Washington à certains chefs d'État africains. Ils estiment que ceux-ci sont arrivés au pouvoir de façon non démocratique. Nasser Sanding, ressortissant sénégalais, est l'un des organisateurs de cette manifestation.
Et nous, en tant qu'activistes, nous avons cru bon de venir ici et faire entendre notre voix qui est différente de celle que le gouvernement a par rapport à l'Afrique. Pour faire porter la voix de la liberté, la voix du peuple africain, c'est la raison pour laquelle nous sommes là devant ce froid glacial devant la Maison-Blanche.
Présent à cette manifestation, Success Masra, un opposant tchadien, estime que si les États-Unis veulent aider l'Afrique, ils ne doivent pas donner un prestige à certaines zones politiques.
Les États-Unis, s'ils veulent aider l'Afrique à avoir des résultats sur les questions démocratiques et sécuritaires, ils ne peuvent pas le faire en continuant à fournir des prestiges diplomatiques, même si c'est un prestige minimum. Il n'est pas nécessaire de donner ces prestiges-là, même si l'Union africaine s'est empêtrée.
John Chomnes, l'un des porte-parole du département d'État et directeur du Centre régional des médias pour Afrique, explique comment certains chefs d'État ont été invités à ce sommet.
On a pris le conseil de l'Union africaine et on a fait la liste des invités en consultation avec eux. L'Union africaine, c'est-à-dire que chaque pays membre qui n'est pas sous suspension de l'Union africaine, et on a essayé de inclure le maximum de pays membres que possible.
49 pays africains et l'Union africaine, sur l'invitation de Joe Biden, participent à ce sommet qui prend fin ce 15 décembre.
En bref, le Niger occupe cette année la même place que l'année dernière, la 59e dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de presse dans 180 pays du monde. Selon le rapport mondial de cette année, le Niger compte 67 radios privées, 15 chaînes de télévision privées et 16 sites de presse en ligne. RSF note qu'à la date du 1er décembre 2022, 533 journalistes ont été incarcérés dans le monde pour avoir exercé leur métier. L'UNICEF, en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication, organise une formation sur le fact-checking à l'intention des journalistes sur la vérification des informations en lien avec la protection des droits de l'enfant. L'objet est de renforcer la capacité des journalistes pour améliorer la qualité des productions. Moussa Mohamed Murtala, secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de la communication, donne des précisions au micro de Nana Hadiza Hassan.
Aujourd'hui, du fait de l'avancée de la technologie, le fact-checking est extrêmement important. Il y a beaucoup de flux d'informations qui circulent. Il faut que les journalistes, qui sont les acteurs chargés de la collecte et du traitement de l'information, ils soient outillés pour pouvoir déterminer ou bien reconnaître les informations qui sont fausses. Et de l'autre côté, pour l'UNICEF qui travaille dans la protection de l'enfant, c'est extrêmement important d'outiller les journalistes avec les instruments nationaux et internationaux de protection de manière générale de l'enfance. Nous voulons atteindre l'objectif d'améliorer la qualité des reportages, notamment en ce qui concerne les droits de l'enfant.
L'Assemblée nationale du Niger a voté hier une nouvelle loi renforçant celle sur la protection des données à caractère personnel. Les principales innovations contenues prennent en compte l'impact de l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, comme l'usage de la biométrie, des mégadonnées, des données ouvertes de la vidéosurveillance, de l'Internet, rapporte l'agence nigérienne de presse à ANP. L'éducation dans les zones nomades rencontre beaucoup de problèmes et de défis. C'est le cas de certaines écoles primaires de la commune de Tchirozérine dans la région d'Agadez. La vulnérabilité des parents impacte souvent l'éducation des enfants, selon Hamza Douda. Il est le directeur de l'école Tchiro Public 2. Il est au micro de Ahmed Félan.
En majorité, nos élèves sont issus de familles pauvres. Donc, ce qui fait que le plan d'action qu'on prépare, on n'arrive pas à les réaliser. On demande à chaque parent de cotiser 1000 francs pour son élève, mais il n'arrive pas. Parce que souvent, les enfants viennent à l'école sans même pour autant prendre leur petit déjeuner. On demande à des partenaires ou l'État d'intervenir au niveau de nos écoles. Parce que vraiment, c'est une ancienne école. Les classes sont vétustes. Nous sommes confrontés à des risques de vol et d'accidents parce que l'école n'est pas clôturée. Et les classes sont vieilles et il y a les risques même d'effondrement des toitures.
L'appel qu'on a, c'est vraiment d'avoir un œil regardant pour certaines écoles. Si on peut faire quelque chose, ne serait-ce que dans la prise en charge de certaines difficultés de l'école, par exemple la réparation des portes et fenêtres, parce que les parents n'arrivent pas à les faire.
En 2022, l'effectif des populations de la région d'Agadez est estimé à près de 700 000 habitants. Comparativement aux autres régions du Niger, Agadez enregistre le plus faible taux de croissance. Cela est dû à l'amélioration de la santé de la population, a expliqué le directeur régional de l'Institut national de la statistique d'Agadez. Il est au micro de Moussa Maman.
L'effectif de la population d'Agadez estimé en 2022 est de 669,04 habitants contre 24,463,374 habitants pour l'ensemble du pays. Le taux de croissance de la population d'Agadez est de 3,7 contre 3,9% d'après le renseignement général de la population de 2012. Comparativement à l'ensemble du pays, le taux d'Agadez est un peu faible par rapport à l'ensemble du pays. Ce qui fait que la population d'Agadez croît moins vite que celle de l'ensemble du pays. Puisque qu'est-ce qui fait que la population croit. D'abord, quand il y a beaucoup de naissances et moins de décès. Pour la région d'Agadez, on peut attribuer cela à l'amélioration de la santé de la population d'Agadez, puisque la région d'Agadez, par rapport à ce qui est de la question de santé, vient en deuxième position après Niamey dans les pays. Puisque quand la population est en bonne santé, ça fait en sorte que les femmes ont moins d'enfants. Et puis aussi, de l'autre côté, le taux d'activité de travail pour la région d'Agadez est élevé. Il vient juste après celui de Niamey.
Mamalawali Saïdou, directeur régional de l'Institut national de la statistique d'Agadez, interrogé par Moussa Maman. Les mouvements de population ainsi que les vols de bétail suite à l'insécurité qui sévit dans la région de Tillabéri réduisent les ressources des femmes déplacées. Elles sont confrontées à un manque d'activité génératrice de revenus, comme en témoigne Tadora Issiwahar, porte-parole des femmes déplacées à Ayarou. Elle est interrogée par Asmane Aboubakar.
C'est l'insécurité qui nous a conduits ici. Si vous voyez une personne quitter chez lui pour une autre localité, c'est à cause des conflits. Le projet nous apporte assistance. À notre arrivée, on nous a donné des logements, après des vivres. Mais dernièrement, certaines personnes se sont vues retirer de la liste de cette assistance. Depuis notre arrivée, on est là à attendre, on ne fait rien. Notre centre de soins est à côté. Mais s'il manque de médicaments, on va au centre de santé de la localité. Ils nous donnent ce qu'ils ont. Pour ce qui manque, on nous fait une ordonnance. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux les avoir que si une personne proche de toi te les paye. Sinon, tu vivras avec ton mal. La femme a besoin de tout, du soutien surtout. Déjà le retour à la maison. Et ce qui nous a conduit ici est toujours en cours. Avant-hier, notre cousin a été attaqué et tué dans son lit.
L'actualité toujours en région, le village de Gatoani est situé dans le département de Gaya. Les habitants de ce village sont majoritairement pêcheurs. Dans les années antérieures, en cette période, c'est l'abondance du poisson, mais cette année, la situation n'est pas la même, selon Mohamed Sani, le représentant du chef des pêcheurs de Gatoani. Il est au micro de Gungu Mohamed Dantani.
Cette année, le poisson, ce n'est qu'une partie remise. Il y a eu assez de pluie et le poisson se pêche en compte-gouttes. Puisque quand l'écoulement de l'eau se fait lentement, il est difficile d'avoir du poisson. En ce moment, quand vous jetez votre filet, vous ne pouvez avoir que quelques poissons, juste pour faire la cuisine du jour. Mais quand l'eau va être en baisse, il y aura assez de poissons. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés se résument sur les matériels de pêche qui coûtent énormément cher aujourd'hui. Et si le pêcheur n'a pas placé beaucoup de filets, il sera difficile d'avoir assez de poissons. Nous avons besoin d'aide. Les filets, les hameçons et tout autre matériel que le pêcheur utilise pour faire son activité.
Du sport en bref, l'équipe de France a battu hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde les Lions de l'Atlas du Maroc sur un score de 2-0. Ainsi, la France se hisse en finale d'une Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée. Cette équipe de France affrontera celle de l'Argentine le dimanche 18 décembre pour la finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde à Qatar 2022. Le magazine de ce journal. Les membres du groupement Yotori Allah de Nordiré pratiquent des cultures maraîchères sur un site qui leur est octroyé par le projet italien 3E. Grâce à ces activités, ces producteurs arrivent à subvenir aux besoins de leur famille, suivant le reportage de Asman Shina.
Le site Yotori Allah de Nordiré Lokto, dans le 5e arrondissement communal de Niamey, fait partie des 20 sites aménagés par le projet 3E pour faire du maraîchage. Sur ce site d'environ 1 hectare, les bénéficiaires cultivent diverses plantes, une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Amadou Ali ou Alzouma est l'un des jardiniers qui exploitent ce site.
En cette période, nous produisons du chou, de l'aubergine, de l'oignon, etc. Mais actuellement, nous sommes en pleine campagne de chou. Et dans peu de temps, nous rentrerons dans celle du concombre et apparenté. Nous avons même présentement de la pomme de terre sous terre au pied de cet arbre que nous allons planter plus tard. Et plus à Dieu, la récolte sera bonne, car nous maîtrisons sa technique de culture et la terre est propice.
En plus du site, le projet a apporté plusieurs autres appuis aux membres du groupement dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Hassan Souna, ingénieur à terre Solidali, explique.
Il y a eu une donation donc en intrants agricoles, c'est les semences et c'est les produits donc phytosanitaires. Nous avons donc les engrais et également donc le petit matériel donc agricole. Et à tout cela maintenant s'ajoute une série donc de formations, des formations sur les techniques donc de production et de protection donc agricole. Et en tout cas c'est toute une série donc de formations qui ont été donc faites pour renforcer les capacités des membres de ce groupement là.
Au niveau du site Yotori Allah, qui est situé un peu plus loin du fleuve, le projet 3E a réalisé un puits maraîcher. Il fonctionne avec un système solaire. Atahiri Idi est le contrôleur de ce dispositif.
Là, sur le puits, on a préféré mettre deux panneaux, parce que c'est pas bon de vider complètement le puits, au risque de l'ensabler après, quoi. Donc, les systèmes qui sont sous le puits sont équipés avec le même dispositif, c'est-à-dire la même charrette, mais qui prend deux panneaux au lieu de quatre. Mais ça va pomper moins que sur le fleuve. Sur le fleuve, vous pouvez faire les 4 mètres cube heure comme indiqué, mais ici peut-être vous allez faire 2,5 mètres cube par heure, quoi.
Les bénéficiaires de tous les 20 sites ont été formés sur l'installation et l'entretien des dispositifs d'irrigation. Ils pourront donc gérer eux-mêmes toutes les activités à l'avenir.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Ali Tachsir pour le journal en langue tamashek. Et juste après, les autres journaux en langue nationale, vous pourrez suivre à partir de 18h15 le forum de ce jour présenté par Fadel Alou depuis Gaya. Il a pour thème comment revaloriser les danses et ballets culturels du Dandi.